Chapitre 33. Sujet de plainte de Madame Merdle. Madame Gowan, au lieu de résister plus longtemps au décret d'un destin inexorable, se résigna à faire contre fortune bon cœur en acceptant ses Meagles. Elle appela donc à son secours toute la philosophie dont, lors de son entrevue avec Arthur, elle avait prévu qu'elle aurait besoin, et consentit généreusement à ne pas s'opposer au mariage de son fils. Il est probable que, pour arriver et s'arrêter à cette heureuse résolution, elle avait dû se laisser influencer, en dehors de son amour maternel, par trois considérations politiques. La première, c'est que son fils n'avait jamais témoigné la plus légère intention de lui demander son consentement ou la moindre inquiétude de ne pouvoir s'en passer. La seconde, c'est que Henri, dès qu'il aurait épousé la fille unique et bien-aimée d'un homme fort à son aise, cesserait naturellement de prélever des impôts indirects sur la pension qu'une patrie reconnaissante avait accordée à Madame Gowan par l'entremise d'un mollusque. La troisième, c'est qu'il était entendu que les dettes d'Henri seraient payées au pied de l'autel par le beau-père. À ces trois raisons dictées par la prudence, si l'on ajoute le fait que Madame Gowan s'empressa de donner son consentement dès qu'elle apprit que M. Meagles avait donné le sien, et que le refus de M. Meagles avait toujours été le seul obstacle à ce mariage, il devient plus que probable que la veuve du commissaire de pas grand-chose ne manqua pas de faire en elle-même tous ses sages raisonnements. Néanmoins, parmi ses parents et ses connaissances, elle sut maintenir sa dignité individuelle et la dignité du sang des mollusques en répétant sans cesse et partout que c'était une affaire bien malheureuse, qu'elle en était peinée au-delà de toute expression, que son fils était sous l'empire d'une véritable fascination, que pendant longtemps elle avait fait son possible pour empêcher cette union disproportionnée, mais une mère ne peut pas toujours résister, etc. Elle avait déjà pris Arthur Clennam à témoin, en sa qualité d'ami de la famille Meagles, pour accréditer cette fable. Dès la première entrevue qu'elle accorda à M. Meagles, elle se donna des airs de céder avec tristesse, mais avec grâce, à une passion irrésistible. Elle feignit, avec infiniment de politesse et de distinction, de croire que c'était elle, et non pas lui, qui faisait un sacrifice. Elle exécuta le même tour de passe-passe à l'égard de Madame Meagles, tout comme un habile escamoteur aurait pu insinuer une carte dans la poche de cette innocente dame. Et lorsque sa future belle-fille lui fut présentée par Henri, elle lui dit en l'embrassant « Ma chère, qu'avez-vous donc fait à Henri pour l'ensorceler ainsi ?» Par la même occasion, elle permit à quelques larmes de faire dégringoler en petites pilules, le long du nez, la poudre cosmétique qui composait son teint, façon délicate mais touchante de prouver combien elle souffrait intérieurement, malgré le calme apparent avec lequel elle semblait subir cette cruelle épreuve. Parmi les amis de Madame Gowan, qui se piquaient à la fois d'être de la société et de maintenir avec cette puissance des relations aussi intimes qu'agréables, Madame Merdle se trouvait au premier rang. Il est vrai que les bohémiens de Hampton Court relevaient le nez d'un air de mépris lorsqu'ils daignaient prononcer le nom de ce parvenu de Merdle. Mais ils l'abaissaient aussitôt pour tomber à plat ventre aux pieds des millions du grand homme. Du reste, dans cette balance compensatoire de leur nez, ils ne faisaient que suivre l'exemple des hauts fonctionnaires de la trésorerie, de l'honneur du barreau, de la fleur de l'épiscopat, et ainsi de suite. L'inconsolable Madame Gowan se disposa donc à faire une visite à Madame Merdle afin de recevoir les compliments de condoléances de cette dame à l'occasion de l'affreux mariage auquel il avait bien fallu consentir. À cet effet, elle se rendit en ville dans un de ces petits véhicules à un cheval auquel le public irrévérencieux donnait alors le nom de « boîte à pilules ». Cet équipage n'appartenait pas précisément à Madame Gowan, mais à un loueur de second ordre qui la conduisait lui-même et qui s'arrangeait au jour et à l'heure avec les vieilles dames du château de Hampton Court. Néanmoins, parmi les nombreuses fictions en usage dans ce camp de bohémiens distingués, l'étiquette voulait que le dit équipage fût toujours regardé comme la propriété personnelle de la personne qu'il occupait pour le moment, et que le loueur n'eût pas l'air de connaître d'autres bourgeoises que la pratique du jour, absolument comme les mollusques qui n'entendent pas moins bien leur commerce que tous les loueurs de fiacres de l'univers font semblant d'ignorer tout autre tripotage que celui qui se trouve inscrit à l'ordre du jour. Madame Myrtle était chez elle, se dorlotant dans son nid d'or et d'écarlate, ayant auprès d'elle le perroquet qui, la tête penchée, contemplait sa maîtresse du haut d'un perchoir voisin, comme s'il la prenait aussi pour une magnifique perruche d'une plus grande espèce. Tous deux consentirent à recevoir Madame Gowan, qui se présenta avec son éventail favori, dont le vert tendre adoucissait un peu la fraîcheur maculée de son teint. « Ma chère belle, » dit Madame Gowan, après avoir causé de choses indifférentes, donnant avec son éventail une petite tape enjouée sur le dos de la main de son amie, « vous êtes mon unique consolation. Cette affaire de Henri, dont je vous ai parlé, va se faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je meurs d'envie de le savoir. Vous représentez et résumez si bien la société. » Madame Myrtle passa en revue la blanche poitrine que la société avait l'habitude de passer en revue, et s'étant assurée que la devanture de M. Myrtle et des bijoutiers de Londres se trouvaient en bon ordre, répondit « Lorsqu'un homme se marie, ma chère, la société exige qu'il fasse un mariage qui augmente sa fortune. Un mariage d'argent, un mariage qui lui permette d'avoir un grand train de maison. Autrement, la société ne voit pas qu'il ait le droit de se marier du tout. Taisez-vous, Jaco !» Car le perroquet, planant sur les deux dames du haut de sa cage, semblant présider à leur conversation, comme aurait pu le faire un juge sur son tribunal, il ressemblait assez à un magistrat, venait de clore par un cri perçant cet exposé de la situation. Il est des cas, reprit Madame Myrtle, imprimant une courbe gracieuse du petit doigt de sa main droite pour rendre ses remarques plus précises au moyen de ce geste délicat, il se présente des cas où un homme n'est ni jeune ni élégant, mais possède déjà une grande fortune et un grand train de maison. Nous ne parlons pas de cela. Dans ces cas-là, Madame Myrtle haussa ses épaules de neige et porta la main à l'étalage de la bijouterie, réprimant un petit accès de toux, comme pour ajouter « Un homme cherche quelque chose dans mon genre. » Alors le perroquet poussa encore un cri, et Madame Myrtle le regarda à travers son lorgnon en disant « Taisez-vous donc !» « Mais lorsqu'il s'agit d'un jeune homme, » poursuivit cette dame, « et vous savez ce que je veux dire par jeune homme, ma très chère, j'entends quelqu'un qui a encore ses parents et dont la position n'est pas faite, il est tenu de faire un mariage qui le place dans une meilleure situation vis-à-vis de la société. Car s'il était assez sot pour agir autrement, la société ne saurait le lui pardonner. Ce que je vous dis là semble affreusement mondain, ajouta Madame Myrtle, retombant nonchalamment sur les coussins de son nid et lorgnant son interlocutrice, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai, remarqua Madame Gowan d'un ton de haute moralité. Ma chère, « c'est incontestable, » répondit Madame Myrtle, « car la société s'est prononcée là-dessus, il n'y a plus à y revenir. Si nous avions des mœurs plus primitives, si nous habitions sous les feuilles de palmier, si au lieu d'être obligés de nous occuper de nos comptes de banque, nous pouvions garder des vaches, des brebis et d'autres bêtes, ce qui serait délicieux, ma chère, vous ne sauriez croire comme j'ai des goûts champêtres. Très bien. Mais nous ne vivons pas sous les feuilles de palmier, et nous ne gardons ni vaches, ni brebis, ni autres bêtes. Je m'épuise quelquefois à tâcher de faire comprendre cette différence à Edmond Sparkler. » Madame Gowan, regardant par-dessus son éventail vert, lorsqu'on prononça le nom de ce jeune homme, répliqua en ces termes « Vous connaissez, ma très chère, la situation déplorable du pays, ces malheureuses concessions de John Mollusk. Et par conséquent, vous savez ce qui fait que je suis aussi pauvre que... » « Qu'un rat d'église ?» suggéra Madame Myrtle en souriant. « Je pensais à un autre pauvre, non moins proverbial, et qui appartient également à l'église. « Job, » répondit Madame Gowan. « Mais le vôtre me va tout aussi bien. Je chercherai en vain à cacher qu'il y a une très grande différence entre la position de votre fils et celle de Henri. Mon fils a beaucoup de talent. » « Et Edmund Sparkler n'en a pas du tout, » ajouta Madame Gowan avec une suavité extrême. Et son talent, joint à de nombreux mécomptes, continua Madame Gowan, l'a engagé à embrasser une carrière qui... Madame Gowan compléta la phrase par un soupir. « Vous savez cela, ma chère. Telle étant la position bien différente de Henri, il s'agit de savoir quel est le plus mauvais mariage auquel je puisse me résigner. » Madame Merdle était tellement occupée à contempler ses bras, les jolis bras, comme ils étaient admirablement modelés, le charmant cadre pour porter des bracelets, qu'elle oublia de répondre. Le silence qui succéda l'ayant tiré de sa contemplation, elle se croisa les bras et, avec un calme plein de finesse, regarda son ami en face et lui dit d'un ton d'interrogation « Oui, et puis ?»« Et puis, ma chère, répliqua Madame Gowan, avec un peu moins de suavité qu'auparavant, je ne serais pas fâché de savoir votre avis. » Le perroquet, qui s'était tenu sur une patte depuis sa dernière démonstration, poussa un éclat de rire, se balança d'un air goguenard sur ses deux pattes, puis se remit sur une seule et attendit la réponse, la tête aussi de travers qu'il pouvait la tourner. « Cela paraît mercenaire de demander quelle dot la demoiselle apportera au monsieur, » dit Madame Merdle. « Mais peut-être la société elle-même est-elle un peu mercenaire, vous le savez, ma chère. » « D'après ce qu'on m'a dit, » répliqua Madame Cowan, « je me crois autorisé à établir en fait que les dettes de Henry seront payées. »« Beaucoup de dettes ?» demanda Madame Merdle à travers son lorgnon. « Mais oui, assez. »« Bon, je devine le chiffre, c'est toujours à peu près la même chose. »« Très bien, » remarqua Madame Merdle d'un ton d'indifférence. « Et le père leur fera une pension de 300 ou 400 livres sterling par an, ce qui, en Italie, ah, ils vont visiter l'Italie. Henri veut étudier. Cela ne doit pas vous étonner, ma chère. Ces affreux beaux-arts. » C'est juste. Madame Merdle s'empressa d'épargner à son amie affligée un si pénible aveu. Elle comprenait. Passons là-dessus. Et voilà, reprit Madame Gowan, secouant sa tête inconsolable, voilà tout. Oui, voilà, répéta Madame Gowan, refermant son éventail vert pour le moment, afin de se taper le menton. Pas encore un double menton, mais il était en train de le devenir. Pour le moment, ce n'était encore qu'un menton et demi. Voilà tout. À la mort des parents, je présume qu'il y aura quelque chose de plus. Mais je doute que Henri puisse jamais toucher le capital. Car pour ce qui est de cela, les parents sont capables de vivre 100 ans. Ma chère, je vous assure qu'ils en ont l'air bien capables. Or, Madame Merdle, qui connaissait assez bien son amie, la société, qui savait rubis sur l'ongle ce que c'est que les mères de la société, ce que c'est que les filles de la société, ce que c'est que le marché matrimonial, les valeurs qui y ont cours, les tripotages et les maquignonnages dont les acheteurs riches sont l'objet, pensa, au fond de sa spacieuse poitrine, que le fils de Madame Gowan n'avait pas fait une mauvaise affaire. Mais comme, d'un autre côté, elle n'ignorait pas ce qu'on attendait d'elle, et qu'elle avait deviné la nature du mensonge social qu'il s'agissait de dorloter, elle le prit dans ses bras, le berça avec tendresse, et en un mot, elle dora de son mieux la pilule. « Comment, voilà tout, ma chère » dit-elle avec un soupir sympathique. « Allons, allons, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Il faut avoir recours à ce courage moral qui vous a valu une réputation si méritée et faire contre fortune bon cœur. » « La famille de la jeune fille, dit Madame Gowan, a fait des efforts inouïs pour capter mon pauvre garçon. »« Cela va sans dire, ma chère. J'ai élevé tous les obstacles possibles et je me suis tourmenté jour et nuit pour trouver quelque moyen de ramener Henri à de meilleurs sentiments. »« Personne n'en doutera, ma chère. Mais en vain, rien ne m'a réussi. »« Dites-moi un peu, ma toute belle, suis-je autorisée à consentir, bien malgré moi, à ce que Henri épouse des gens qui ne sont pas de la société, ou bien n'ai-je pas fait preuve d'une faiblesse inexcusable ? » En réponse à cet appel, Madame Merdle, en sa qualité de grande prêtresse de la société, affirma que Madame Gowan méritait les plus grands éloges, que sa conduite lui vaudrait de nombreuses sympathies, qu'elle avait joué le rôle d'une héroïne et qu'elle était sortie à son honneur de cette épreuve. Madame Gowan, qui voyait on ne peut plus clair à travers sa feinte, qui savait que Madame Merdle voyait aussi clair qu'elle et que la société ne verrait pas moins clair, Madame Gowan termina cette cérémonie comme elle l'avait commencée, c'est-à-dire avec beaucoup de contentement intime et beaucoup de gravité. La conférence se tenait entre 4 et 5 heures de l'après-midi, tandis que les roues des voitures et les coups de marteau des visiteurs retentissaient dans toute la région de Harley Street, Cavendish Square. À ce moment de l'entrevue, M. Merdle revint de ses occupations journalières qui consistaient à faire respecter de plus en plus le nom anglais dans toutes les parties du globe civilisé, capable d'apprécier les courageux efforts d'un commerce cosmopolite et les combinaisons gigantesques de l'habileté et du capital. Car, bien que personne ne sût au juste de quel genre d'affaires M. Merdle s'occupait, on savait seulement que l'argent semblait avoir le don de se multiplier entre ses mains. C'étaient là les termes dont tout le monde se servait pour le désigner dans les occasions de grandes cérémonies, termes qu'une nouvelle variante de la parabole du chameau et du trou de l'aiguille obligeait la société à accepter sans enquête. Pour un homme qui avait un rôle si brillant à remplir, M. Merdle avait l'air d'un homme comme un autre, ou plutôt, on eût dit que dans le cours de ses vastes transactions commerciales, il avait par hasard troqué sa tête contre celle de quelque esprit inférieur. Il se présenta un moment devant les deux dames, durant une lugubre promenade qu'il faisait à travers son palais, et qui ne paraissait d'avoir d'autre but que d'échapper à la présence de son maître d'hôtel. « Pardon, » dit-il, s'arrêtant tout confus, « je croyais qu'il n'y avait ici que le perroquet. » Cependant, Mme Merdle ayant dit « Vous pouvez entrer », et Mme Gowan, qui venait de se lever, ayant déclaré qu'elle allait prendre congé de sa très chère amie, M. Merdle entra et se mit à regarder par une croisée éloignée, ses mains croisées sous ses parements, inquiet, se tenant par le poignet, comme s'il eût voulu opérer son arrestation lui-même. Sans changer d'attitude, il tomba dans une rêverie dont il fut tiré par la voix de madame, qui l'appela de l'autre bout du salon, où il se trouvait depuis près d'un quart d'heure. « Hein, oui, » dit alors M. Merdle, en se tournant vers elle, « qu'est-ce qu'il y a ?»« Ce qu'il y a, » répéta Mme Merdle, « il y a que vous ne paraissez pas avoir entendu un mot de ce que je viens de vous dire. De quoi me suis-je plainte ?»«
Vous vous êtes plainte, Mme Merdle ? Je ne savais pas que vous fussiez malade. »«
C'est de vous, » dit Mme Merdle, « que je me plaignais. »«
Oh, vous vous plaignez de moi.
Quel est mon... Qu'ai-je donc ? À quel propos avez-vous à vous plaindre de moi, Mme Merdle ?» Grâce à ses façons effrayées, distraites, rêveuses, il lui avait fallu quelque temps pour formuler cette question. Il termina sa phrase en présentant son doigt au perroquet, seulement comme pour essayer de s'assurer s'il était bien le maître de séant, et l'oiseau lui prouva qu'il était d'un avis contraire en mordant immédiatement ce doigt téméraire. « Vous disiez, Mme Merdle, continua M. Merdle, tout en suçant son doigt mordu, que vous aviez à vous plaindre de moi ?»«
Oui, et c'est sans doute pour me prouver combien j'ai raison de me plaindre que vous m'obligez à répéter mes paroles. J'aurais tout aussi bien fait de parler à la muraille. J'aurais beaucoup mieux fait de parler à cet oiseau. Il aurait au moins crié, lui. »«
Je ne suppose pas que vous teniez à m'entendre crier, Mme Merdle, » demanda M. Merdle, prenant un siège.
« En vérité, je ne sais pas trop, » riposta Mme Merdle, « si vous ne feriez pas mieux de crier que de rester aussi sombre et aussi distrait. On saurait au moins que vous prenez quelque intérêt à ce qui se passe autour de vous. »
« On pourrait crier sans être pour cela moins distrait, Mme Merdle, » dit M. Merdle avec son ton assommant.
« Et on peut être aussi bourru que vous l'êtes en ce moment sans crier, » répondit Mme Merdle. « C'est très vrai. Si vous voulez savoir ce dont je me plains, je vous le dirai en deux mots. Vous ne devriez vraiment pas aller dans la société si vous ne savez pas vous plier aux exigences de la société. »
M. Merdle, enroulant autour de ses doigts les cheveux qui lui restaient, parut s'enlever par la crinière, tant il mit de précipitation à se lever.
« Mais, au nom de toutes les puissances infernales, s'écria-t-il, dites-moi un peu, Mme Merdle, si vous connaissez quelqu'un qui fasse plus que moi pour la société. »
« Voyez-vous cet hôtel, madame ? Voyez-vous ces meubles, madame ? Tournez-vous cette place et regardez-vous, madame. Savez-vous ce que cela coûte ? Savez-vous qui profite de tout cela ? Et puis vous venez encore me dire que je ne devrais pas aller dans la société. Moi qui répands ainsi sur elle l'or à pleine main. Moi qui ai presque l'air de m'atteler à une voiture d'arrosage remplie d'or pour aller partout et toujours en saturer la société. »
« Ne vous emportez pas, Monsieur Merdle, je vous prie.
M'emporter ? Mais vous me feriez sauter au plafond. Vous ne savez pas la moitié de ce que je fais pour la société. Vous ne savez pas les sacrifices que je fais pour elle. Je sais que vous recevez la meilleure société du pays.
Je sais que vous êtes reçu dans la meilleure société de toute l'Angleterre. Je crois que je sais aussi, et même pour ne pas faire feinte de ridicule, je sais que je sais, quelle est la personne qui vous aide en cela, Monsieur Merdle ?» Madame Merdle, répliqua le millionnaire, essuyant son insipide visage rouge et jaune, « je sais tout cela aussi bien que vous. Si vous n'étiez pas un des ornements de la société, et moi-même, si je n'avais pas été un bienfaiteur de la société, vous et moi, nous ne serions pas unis. Lorsque je dis bienfaiteur de la société, j'entends par là un homme qui lui donne à boire, à manger ou à admirer une foule de choses coûteuses. Mais me dire que je ne suis pas digne de m'y montrer, après tout ce que j'ai fait pour elle, répéta M. Merdle avec une énergie étrange qui surprit Mme Merdle au point de lui faire lever un peu les sourcils, après tout ce que j'ai fait, tout, venir me dire que je n'ai pas le droit de m'y montrer, c'est une jolie récompense, ma foi. Je prétends, répondit Mme Merdle, avec beaucoup de calme, que vous devriez vous en rendre digne en vous montrant plus dégagé et moins soucieux. Il y a quelque chose qui sent son plébéien d'une lieue à traîner partout avec vous vos préoccupations d'affaires comme vous le faites. Comment est-ce que je les traîne avec moi, Mme Merdle ? Comment ? Regardez-vous dans la glace. M. Merdle dirigea involontairement les yeux vers le miroir le plus voisin et demanda, tandis que son sang épais montait lentement à ses tempes, si un homme est responsable de sa digestion. « Vous avez un médecin, » répondit Mme Merdle. « Je ne vois pas trop à quoi il me sert. » Mme Merdle changea de tactique. « D'ailleurs, dit-elle, c'est une mauvaise plaisanterie que de me parler de votre digestion. Il ne s'agit pas de votre digestion, mais de vos manières. » Mme Merdle répliqua le mari, « Les manières ne sont pas mon affaire. C'est vous que cela regarde. Vous fournissez les manières, moi je fournis l'argent. » « Je ne vous demande pas, » poursuivit Mme Merdle, reposant à l'aise au milieu des coussins, « je ne vous demande pas de captiver les gens. Je n'exige pas que vous vous donniez la peine de fasciner les gens. Je vous prie seulement de faire comme tout le monde et de vous soucier de rien, ou au moins d'en avoir l'air. Ai-je jamais dit que je me souciais de quelque chose ?»« Si vous l'avez dit, non. On ne vous écouterait seulement pas si vous le disiez. Mais vous le laissez voir. » Qu'est-ce que je laisse voir? Qu'est-ce que l'on voit? Demanda M. Merdle avec une vivacité inaccoutumée. Je vous l'ai déjà dit. On voit que vous portez avec vous vos soucis et vos projets d'homme d'affaires, au lieu de laisser tout cela dans le quartier de la Bourse ou dans leur domicile naturel. Ne pourriez-vous pas au moins feindre de les y laisser? Cela suffirait. Je ne vous en demande pas davantage. Mais non, vous ne pourriez pas avoir l'air plus préoccupé de vos calculs et de vos combinaisons, si vous étiez un simple menuisier. « Un menuisier, » répéta M. Merdle, réprimant quelque chose comme un gémissement. « Je ne serais pas trop fâché, après tout, d'être un menuisier, Madame Merdle. » « Et ce dont je me plains, » poursuivit la dame sans daigner relever cette observation plébéienne, « c'est que ce n'est pas là le ton de la société, et que vous devriez chercher à vous corriger, M. Merdle. Si vous ne me croyez pas, demandez à Edmund Sparkler. » La porte du salon venait de s'ouvrir et Mme Merdle contemplait à travers son lorgnon la tête de son fils. « Edmund, nous avons besoin de vous. » M. Sparkler, qui s'était contenté de passer la tête par la porte entrebâillée, mais sans entrer, on eût dit qu'il parcourait la maison en quête d'une demoiselle pas bégueule du tout, s'avança alors et s'approcha de Mme Merdle, qui, dans quelques phrases à la portée de son intelligence, lui expliqua le point en litige. Le jeune gentleman, après avoir palpé avec inquiétude son faux col comme un hypocondre se tâte le pouls, répondit « J'ai entendu des individus causer de ça. » « Vous voyez, Monsieur Merdle, Edmund Sparkler en a entendu parler, » dit Mme Merdle avec une langueur triomphale. « Ainsi, il est probable que tout le monde en a entendu parler. » En effet, c'était là une conclusion assez logique. Attendu qu'il eût été impossible de trouver dans aucune réunion d'êtres pensants une personne moins capable qu'Edmund Sparkler de s'apercevoir de ce qui se passait en sa présence. Et sans doute, Edmund Sparkler vous dira aussi, continua Mme Merdle, avec un geste de sa main favorite vers M. Merdle, quelles sont les observations qu'il a entendues. « Impossible, répliqua M. Spankler, se tâtant le pouls comme la première fois, impossible de me rappeler ce qui a donné lieu à ces remarques, car ma mémoire est presque toujours en vacances. Mais me trouvant, à l'époque en question, avec le frère d'une diantrement jolie fille, très bien élevée, par-dessus le marché, et pas du tout bégueule, là, laissez la sœur de côté, interrompit Mme Myrtle d'un ton d'impatience apathique. Qu'est-ce que le frère disait ?
« Le frère n'a pas ouvert la bouche, madame, » répliqua M. Spankler. « C'est un individu aussi silencieux que moi, aussi embarrassé pour trouver ce qu'il veut dire. »«
Mais enfin, on a dit quelque chose, » insista Mme Myrtle. « Ne vous occupez pas du reste. »«
Je ne m'en occupe pas le moins du monde, je vous assure, » remarqua M. Spankler.
« Mais répétez-nous ce qu'on a dit. »
M. Spankler tâta encore le pouls de son faux col, se fit subir à lui-même un examen mental très sévère avant de répondre.
« Des individus faisant allusion à mon gouverneur, l'expression n'est pas de moi, disent parfois des choses assez flatteuses de mon gouverneur, qu'il est immensément riche et habile comme tout, un vrai phénomène de banquier, de boursicotier et le reste. Mais ils ajoutent qu'il ne sait pas s'affranchir des affaires de la boutique, qu'elles pèsent toujours sur lui, qu'il les porte sur son dos, comme un marchand d'habits galons courbé sous le poids de son commerce.
« Et voilà, justement, » dit Mme Myrtle, qui se leva et laissa flotter sa draperie autour d'elle, « voilà, justement, ce dont je me plains. Edmund, je monte chez moi, donnez-moi le bras. »
M. Myrtle, qu'on laissa seul, afin qu'il pût songer tout à son aise à se rendre plus digne de la société, regarda successivement par 9 croisées différentes et parut contempler 9 déserts plus sombres les uns que les autres. Lorsqu'il se fut ainsi diverti, il descendit pour examiner de même le dessin des tapis du rez-de-chaussée. Puis il remonta à examiner avec non moins d'attention celui de tous les tapis du premier étage, comme s'il eût aperçu là de sombres profondeurs à l'unisson de son âme accablée de tristesse. Tandis qu'il errait ainsi à travers son hôtel, il avait l'air de la dernière personne au monde qui se reconnut le droit de s'y promener. Quand même Mme Myrtle aurait crié par-dessus les toits qu'elle était chez elle tel soir pendant la saison, M. Myrtle annonçait encore plus clairement en ce moment qu'il ne se trouvait jamais chez lui. Il finit par rencontrer son maître d'hôtel, ce serviteur imposant dont un seul coup d'œil suffisait pour l'achever. Écrasé par l'aspect de ce grand homme, M. Myrtle s'enfuit honteusement et se cacha dans son salon de toilette où il s'enferma jusqu'au moment où il monta dans le superbe équipage de M. Myrtle pour aller dîner en ville. À dîner, le millionnaire fut envié et flatté comme une grande puissance. Les hauts fonctionnaires de la trésorerie, l'honneur du barreau et la fine fleur de l'épiscopat lui firent autant de courbettes qu'il en voulut. À 1 heure du matin, il rentra seul et après s'être laissé éteindre à l'instant même dans son propre vestibule, comme une chandelle d'un sou par son propre maître d'hôtel, il poussa un gros soupir et s'en fut se coucher.
Chapitre 34. Un banc de mollusques. Monsieur Henry Gowan et le chien fréquentaient très assidûment la villa Meagles, car le jour du mariage était déjà fixé. On avait décidé qu'il y aurait une convocation du mollusque en l'honneur de cet événement, afin que cette très nombreuse et très puissante famille répandît sur cette union autant de lustre qu'une chose aussi insignifiante était capable d'en recevoir. Rassembler toute la famille mollusque eût été une tâche impossible pour 2 raisons. D'abord parce qu'il n'y avait pas de maison assez vaste pour contenir tous les membres et alliés de cette race illustre. Ensuite, parce que s'il existait n'importe où, sous le soleil ou sous la lune, un pied carré de terre appartenant à Sa Majesté britannique où il y eut le plus petit poste à remplir, il poussait en même temps un mollusque pour s'incruster dans ce poste. À peine un navigateur intrépide avait-il eu le temps de planter son drapeau sur un point quelconque du globe et d'en prendre possession au nom de l'Angleterre que le ministère des circonlocutions y envoyait un mollusque armé d'une boîte à dépêches. De sorte que les mollusques sont dispersés sur toute la surface de l'univers, expédiant des boîtes de rapport de tous les points de la boussole. Mais si Prospero lui-même, armé de sa baguette magique,
n'eût pas réussi à convoquer les mollusques de tous les coins de l'océan ou de la terre ferme où ils n'avaient rien que du mal à faire et quelques traitements à empocher, cela n'empêchait pas cependant d'en réunir un certain nombre. Madame Gowan se chargea de ce soin. Elle se présentait fréquemment chez M. Meagles avec de nouveaux noms à ajouter à la liste des invités et elle avait eu avec lui de petites conférences. Lorsqu'il n'était pas occupé, le malheureux ne l'était que trop à cette époque, à examiner et à solder les dettes de son futur gendre dans la petite salle ornée des balances et de la pelle à or. Parmi les invités, il en était un dont la présence intéressait davantage M. Meagles et dont l'absence lui eût causé plus de soucis que celle du plus puissant des mollusques attendus. Et pourtant, il s'en fallait beaucoup qu'il fût insensible à l'honneur de recevoir une société aussi distinguée. C'était Clennam, mais Clennam avait fait, sous les arbres de la sombre allée et par cette belle nuit d'été, une promesse qu'il tenait pour sacrée, et dans la loyauté de son cœur, il lui semblait que cette promesse renfermait une foule d'obligations tacites. Il se croyait tenu de faire preuve d'une abdication constante et de ne jamais manquer une occasion de rendre le plus léger service à chérie. Pour commencer, il répondit gaiement à M. Meagles, « Mais certainement, je viendrai. » M. Meagles semblait un peu embarrassé de savoir ce qu'il ferait à l'égard de l'associé d'Arthur, Daniel Doyce. Le digne gentleman n'était pas tout à fait convaincu qu'il ne résulterait pas du mélange de Daniel avec un nombre donné de mollusques officiels, quelques combinaisons explosives. Mais ce grand criminel de Doyce le tira d'embarras en se rendant à Twickenham pour représenter qu'il venait, avec la liberté d'un ancien ami, demander comme une grande faveur qu'on ne l'invita pas. « Attendu, dit-il, que mes relations avec ces messieurs ont eu pour objet de remplir un devoir et de rendre un service à mon pays, et que les relations de ces messieurs avec moi ont eu pour but de m'en empêcher et de me décourager de guerre lasse, je crois que nous ferons mieux de ne pas manger et boire à la même table en ayant l'air d'être du même avis. » Cette nouvelle excentricité de son ami amusa beaucoup M. Meagles, et ce fut avec un air de patronage plus indulgent que de coutume qu'il lui répondit « Soit, Daniel, soit, encore une bizarrerie, mais faite à votre guise. » À mesure que le jour du mariage approchait, Clennam chercha, avec beaucoup de simplicité et de sincérité, à faire entendre à M. Henry Gowan qu'il était disposé à lui offrir franchement et loyalement son amitié. M. Gowan, de son côté, ne se départit pas de son aisance habituelle et lui accorda autant de confiance que par le passé, c'est-à-dire qu'il ne lui en accorda pas du tout. « Voyez-vous, Clennam, remarqua-t-il un jour en passant, au milieu d'une conversation, tandis qu'il se promenait près d'un cottage des Meagles, une semaine avant le mariage, je suis un homme désappointé. Mais vous le saviez déjà. » « D'honneur, répliqua Clennam un peu embarrassé, je ne vois pas trop que vous ayez le droit de dire cela. Vous oubliez que j'appartiens à un clan, ou à une clique, ou à une famille, ou à une coterie, donnez-lui le nom que vous voudrez, qui aurait pu me faire faire mon chemin de 50 manières différentes et qui s'est mis dans la tête de ne rien faire du tout pour moi. Me voilà donc, comme vous voyez, devenu un pauvre diable d'artiste. » Mais d'un autre côté, commença Clennam, Gowan l'interrompit. « Oui, oui, je sais, j'ai le bonheur d'être aimé d'une belle et charmante fille que j'aime aussi de tout mon cœur. » « En avez-vous beaucoup ?» pensa Arthur, qui ne put réprimer cette réflexion, tout en cela reprochant lui-même. « Et de trouver un bon enfant de beau-père qui fait très généreusement les choses. Néanmoins, on avait mis d'autres idées dans ma tête d'enfant lorsqu'on la peignait et qu'on la brossait à grand renfort de valet de chambre. J'en avais conçu d'autres moi-même lorsque je suis allé au collège et que je commençais à la peigner de ma propre main. Toutes ces idées-là, il faut que j'y renonce aujourd'hui. Voilà ce qui fait que je suis un homme désappointé. La pilule n'est pourtant pas bien amère, il me semble, dit Clennam riant tout haut cette fois. Non, sapristi, non, répliqua Gowan en riant. Mes nobles parents ne méritent pas qu'on regrette amèrement de n'avoir pas été patronné par eux, quoique ce soit de charmantes gens et que j'aie pour eux la plus grande affection. D'ailleurs, c'est un plaisir que de pouvoir leur prouver que je sais me passer d'eux et les envoyer à tous les diables. Et puis, tous les hommes sont plus ou moins désappointés, ici-bas, d'une façon ou d'une autre, et ne peuvent pas s'empêcher de s'en ressentir. Mais malgré tout, c'est un cher, un adorable monde, et je l'aime de toute mon âme. C'est qu'aussi vous êtes en beau chemin.
Un chemin aussi beau que cette rivière d'été, s'écria l'autre avec enthousiasme.
Par Jupiter, je me sens une admiration et une ardeur toutes nouvelles. Quel bon vieux monde cela fait! Et ma profession, la meilleure des professions, n'est-ce pas?
Une carrière pleine d'intérêt et d'ambition, telle que je la conçois, répondit Clennam.
Et pleine d'imposture aussi, reprit Gawain en riant. N'oublions pas l'imposture.
J'espère que je ne pécherai point par là, mais je crains, en ma qualité d'homme désabusé, de trop le laisser voir. J'ai peur de ne pas pouvoir jouer mon rôle avec toute la gravité qu'il exige. Je crois, entre nous, que je suis trop aigri pour le faire.
Pour faire quoi ? Demanda Clennam.
Pour imiter mes chers confrères. Pour soutenir la vieille gageure que chacun de nous soutient à son tour. Pour parler de travaux assidus, d'études, de patience, de dévouement à son art, pour faire semblant d'y consacrer bien des journées solitaires, de renoncer à une foule de plaisirs à cause de son art, de ne vivre que pour son art, et ainsi de suite. En un mot, de repasser à mon voisin la même crème fouettée comme le font tous mes excellents camarades en peinture.
Mais il est bien, ce me semble, que chacun, en effet, respecte sa vocation et se croit obligé de la défendre, de réclamer pour elle le respect auquel elle a droit. Qu'en dites-vous, Gawain? Et la vôtre n'exige-t-elle pas réellement ces études et cette patience dont vous parlez? J'avoue que je ne connais pas d'art qui n'exige au moins cela.
Quel bon enfant vous faites, Clennam, s'écria l'autre, s'arrêtant pour regarder son compagnon, comme quelqu'un qui ne peut cacher son admiration.
Quel brave garçon! Vous n'avez jamais été désappointé, vous. C'est facile à voir.
Si cette remarque eût été faite avec intention, elle eût été si cruelle qu'Arthur aima mieux croire qu'elle avait été faite au hasard.
Gawain, sans s'interrompre, posa la main sur l'épaule de son compagnon, ajoutant d'un ton léger
« Clennam, c'est à regret que je viens détruire vos généreuses illusions, car je donnerais beaucoup d'argent, si j'en avais, pour vivre dans ce brouillard couleur de rose. Mais la franchise avant tout. Je fais un tableau, c'est pour le vendre. Lorsque mes chers confrères font des tableaux, c'est pour les vendre. Si nous ne comptions pas les vendre au plus offrant, nous n'en ferions pas. On a de l'ouvrage, on le fait. Ce n'est pas plus difficile que ça. Tout le reste n'est que jonglerie toute pure. Vous voyez l'avantage ou le désavantage qu'il y a d'avoir affaire à un homme désappointé. Il vous dit la vérité. » Que ce fût la vérité ou pas, ces paroles n'en firent pas moins une vive impression sur Clennam. Elles s'enracinèrent tellement dans son esprit qu'il commença à croire que Henry Gawain serait toujours pour lui une source d'inquiétude et que, sous ce rapport, il n'avait rien gagné à vaincre les inconséquences, les soucis et les contradictions de personne. Il s'aperçut que la lutte intime n'était pas encore terminée, car la promesse qu'il avait faite de ne présenter Gawain au père de Chéri que sous un jour favorable était tenue en échec par l'insistance de M. Henry Gawain à se montrer sous un jour défavorable. Arthur avait beau se dire qu'il ne recherchait nullement ses découvertes des mauvais côtés de son ex-rival, et qu'au contraire, il eût volontiers évité de les voir, il craignait toujours, dans sa loyale nature, d'avoir conservé des préjugés qui défiguraient Henry Gawain à ses yeux. Car il ne pouvait oublier le passé, et il savait bien que s'il avait éprouvé tout d'abord de l'antipathie pour Gawain, c'était tout bonnement parce que ce dernier lui avait coupé l'herbe sous le pied. Tourmenté par ses réflexions, il en vint bientôt à désirer que le mariage fût déjà célébré et que Gawain et sa jeune épouse fussent partis, afin que, resté seul avec les parents, il pût tenir plus facilement sa promesse et remplir le rôle généreux qu'il avait accepté. La semaine qui précéda le mariage fut un temps de tracas et d'ennui pour toute la maison. En présence de Chéri et de Gawain, M. Meagles était toujours radieux, mais plus d'une fois, lorsque Clennam le trouva seul, il s'aperçut que son ami ne voyait plus les balances et la pelle à or qu'à travers un brouillard humide. Plus d'une fois aussi, tandis que le père regardait les amoureux se promenant dans le jardin ou ailleurs sans qu'ils puissent le voir, Arthur avait reconnu ce nuage de tristesse que la présence de Gawain y avait fait passer dès le premier jour.
En disposant la maison pour cette grande occasion, il fallut remuer bien les souvenirs de leur voyage. On se les passait alors de main en main. Parfois, à la vue de ces témoins muets des jours sans nuages, Chérie elle-même ne pouvait s'empêcher de pleurer et de se lamenter. Madame Meagles, la plus joyeuse et la plus affairée des mamans, allait chantant sans cesse et encourageant tout le monde. Mais cette bonne âme avait aussi ses moments de défaillance où elle allait se cacher dans quelque office pour en ressortir les yeux tout rouges, attribuant ses ophtalmies passagères à la présence d'une certaine provision d'oignons confits au vinaigre et chantant plus haut que jamais. Madame Tickett, n'ayant pas découvert dans le traité de médecine domestique du docteur Bacon le moindre baume pour une âme affligée, s'abandonnait à une profonde tristesse évoquée par des souvenirs touchants de l'enfance de Mina. Lorsque ces souvenirs l'accablaient par trop, elle avait coutume d'envoyer en haut des messages mystérieux pour dire que, n'étant pas en toilette de salon, elle priait en grâce son enfant de lui accorder une seule minute d'entretien dans la cuisine souterraine. Là, elle bénissait le visage de son enfant et le cœur de son enfant en la serrant dans ses bras au milieu d'un fouillis de larmes, de félicitations, de hachoirs, de rouleaux et de pattes, avec la tendresse d'une vieille bonne bien aimante, et c'est, ma foi, une tendresse dont il ne faut pas dire de mal. Mais quand un jour doit venir, il finit toujours par arriver. Comme le jour de ce mariage devait arriver, il vint à son tour, et avec lui tous les mollusques invités au repas de noces. Il y avait M. Tenace Mollusque, du ministère des circonlocutions et de la rue des Écuries, Grosvenor Square, avec la coûteuse Madame Tenace Mollusque, née des Échasses, grâce à laquelle les jours d'émargement semblaient toujours en retard, et les trois non moins coûteuses Mesdemoiselles Tenace Mollusque, chargées jusqu'à la gorge de talents d'agrément, prêtes à partir à la première offre matrimoniale, et qui néanmoins ne partaient pas avec toute la rapidité d'explosion qu'on devait naturellement attendre d'armes si bien préparées. Car, au contraire, elles avaient tout l'air de faire long feu comme de vieux pistolets rouillés. Il y avait Mollusque jeune, également attaché au ministère des circonlocutions, et qui avait laissé ce jour-là le tonnage de sa patrie, dont il était censé être le protecteur immédiat, et qui, je suis heureux de le dire, ne perdit rien à se tirer d'affaire lui-même en l'absence de son jeune protecteur. Il y avait l'aimable petit Mollusque, attaché au secrétariat du ministère des circonlocutions, qui prenait gaiement et agréablement les choses, assistant à ce mariage, comme s'il se fût agi de remplir une des formalités officielles du ressort du département chargé de tout entraver. Il y avait trois autres jeunes Mollusques attachés à trois autres ministères, insipides à tous égards, et qui auraient eu grand besoin d'être mis à la sauce piquante. Ils étaient venus là comme ils seraient allés voir le Nil, Rome, la nouvelle chanteuse ou Jérusalem. Mais il y avait un gibier autrement imposant que ce menu fretin. Il y avait Lord Decimus Tenace Mollusque en personne, en odeur de circonlocution, tout parfumé des senteurs de Marocains des boîtes à dépêche. Oui, Lord Decimus en personne, ce grand homme qui avait atteint le faîte des hauteurs officielles sur les ailes d'une seule phrase indignée. « Milords, il me reste encore à apprendre qu'il importe au ministre d'une nation libre de mettre des bornes à la philanthropie, de restreindre la charité, d'entraver l'ardeur publique, d'imposer des limites à l'esprit d'entreprise, de porter atteinte au courageux esprit d'initiative des membres de cette nation. » En d'autres termes, cet illustre homme d'État s'étonnait d'avoir encore à apprendre qu'il importait au pilote d'un navire de faire autre chose que de veiller à la prospérité de son trafic personnel quand il avait un équipage pour travailler à la pompe et à empêcher le navire de couler sans qu'il s'en occupât. Grâce à cette découverte sublime, Lord Decimus avait porté à son apogée la gloire de la famille Mollusque. Que quelques membres mal appris s'avisât dans l'une ou l'autre chambre d'essayer de faire quelque chose, en présentant un bill à cet effet, ce projet de loi était enterré du coup lorsque Lord Tenace Mollusque se levait et disait de sa place, d'un ton solennel, devenant de plus en plus majestueusement indigné à mesure que les bravos ministériels retentissaient autour de lui, « Il me restait à apprendre, Milords, qu'il importe aux ministres d'une nation libre de mettre des bornes à la philanthropie, de restreindre la charité, d'entraver l'ardeur publique, d'imposer des limites à l'esprit d'entreprise, de porter atteinte au courageux esprit d'initiative des membres de cette nation. La découverte de cette serinette était tout bonnement celle du mouvement perpétuel en politique. Elle ne s'usait jamais, bien qu'on en tournât et retournât sans cesse la manivelle dans tous les ministères de l'État. Il y avait encore, à côté de son noble ami et parent Lord Decimus, il y avait ce William Mollusque qui avait formé une si mémorable coalition avec Tudor des Échasses et qui avait aussi inventé une nouvelle recette pour tout entraver, dont il était toujours prêt à se servir. Son système consistait à demander s'il y avait un précédent pour tel ou tel fait. Quelquefois, il s'adressait au président avec un « D'abord, je vous prierai, monsieur, de vouloir bien dire à la Chambre s'il existe le moindre précédent qui justifie la mesure dans laquelle l'honorable préopinant voudrait nous précipiter. » D'autres fois, il demandait directement à l'honorable préopinant d'indiquer quel précédent il avait à leur offrir. D'autres fois encore, il annonçait à l'honorable préopinant que lui, William Mollusque, se donnerait la peine de rechercher s'il existait un précédent. Souvent, enfin, il écrasait du coup l'honorable préopinant en lui annonçant qu'il n'existait aucun précédent. Mais ces deux mots, précédent et précipité, étaient en toutes circonstances les doux chevaux de bataille de cet habile circonlocutionniste. Il y avait 25 ans que l'infortuné et honorable préopinant essayait, toujours en vain, de précipiter William Mollusque dans telle ou telle mesure. C'est égal, William Mollusque continuait à demander à la Chambre, il ne se souciait guère de le demander au pays, si on croyait qu'il allait se laisser précipiter dans telle ou telle mesure. Peu importait à William Mollusque qu'il fût matériellement impossible que l'infortuné et honorable préopinant pût citer un précédent quelconque. Il n'en continuait pas moins à remercier l'honorable préopinant de ses bravos ironiques et à l'achever en lui disant à son nez et à sa barbe qu'il n'y avait pas de précédent pour justifier telle ou telle mesure. Peut-être pourrait-on objecter que la sagesse de William Mollusque n'est pas une sagesse d'un ordre bien élevé, attendu que si rien ne doit se faire sans précédent, il est clair que le monde, dont les mollusques se moquaient sans vergogne, n'aurait jamais été créé. Ou bien, s'il eût été créé par suite de quelque étourderie, il aurait marché tout de travers. Mais le substantif précédent et le verbe précipiter, accouplés ensemble, suffisaient pour effrayer la plupart des gens. Puis il y avait un autre mollusque, un mollusque très agile, qui avait sauté à travers 20 places en un rien de temps, qui occupait toujours 2 ou 3 sinécures à la fois, et qui était l'inventeur respecté d'un procédé admirable qu'il employait avec beaucoup de succès au bénéfice de tous les gouvernements mollusques. Ce procédé consistait, lorsqu'on lui adressait une question parlementaire sur un sujet quelconque, à répondre sur toute autre chose. Ce système de coq à l'âne avait rendu de très grands services et avait valu au spirituel inventeur l'estime du ministère des circonlocutions. Il y avait aussi quelques mollusques parlementaires moins illustres. Ceux-là n'avaient pas encore de place qui mérite à ce nom et faisaient leur apprentissage afin de prouver qu'ils étaient dignes d'en occuper une. Ces mollusques étaient de ceux qui se tiennent perchés sur les escaliers ou cachés dans les couloirs de la chambre, attendant des ordres pour savoir s'ils doivent ou non procéder à ce que la chambre soit en nombre, qui crient « Écoutez, écoutez » ou « Oh, oh » qui applaudissent ou aboient selon le mot d'ordre donné par le chef de la famille, qui mettent à l'ordre du jour des motions insignifiantes uniquement destinées à retarder une motion sérieuse, qui prononcent des discours assommants sur des sujets ennuyeux jusqu'à 1 heure avancée de la nuit, jusqu'au dernier jour de la session, puis s'écrie avec un vertueux patriotisme en réponse à la motion sérieuse qu'il est trop tard. Alors ils partent pour la province, partout où on les envoie, jurant que Lord Decimus a tiré le commerce d'une syncope et la navigation d'une attaque de paralysie, qu'il a doublé la récolte de blé, quadruplé la récolte de foin et empêché un tas incroyable d'or de s'envoler des caves de la banque. Ces mollusques inférieurs étaient distribués par les chefs de famille comme autant de basses cartes qui ne peuvent plus servir au grand jeu de la cour, mais qui sont encore assez bonnes pour présider à des meetings et des dîners publics où ils apportaient un témoignage aussi éclatant que désintéressé aux nombreux services rendus au pays par leurs nobles et honorables parents, et mettaient l'éloge des mollusques à toute sauce dans des toasts impromptus depuis longtemps préparés. Ils se rendaient avec le même mot d'ordre à toutes les élections. Ils se démettaient de leur propre siège au Parlement, dans le plus bref délai et aux conditions les plus déraisonnables, afin de laisser le champ libre à d'autres membres. Ils quêtaient et rapportaient aussi bien qu'un chien de race. Ils flattaient, tripotaient, corrompaient, cherchaient leur vie dans des tas d'ordures, toujours infatigables dans leur zèle pour le service de la patrie. Aussi, il n'existait pas, dans tous les bureaux du ministère des circonlocutions, une liste de places disponibles d'ici à 25 ans, depuis le gouvernement des Indes ou un commissariat de la trésorerie jusqu'à un consulat en Chine, où quelques-uns de ces mollusques, sinon tous ces mollusques faméliques et adhésifs, ne se fussent inscrits comme candidats. Il est inutile de dire que chaque classe de mollusques avait à peine un échantillon pour la représenter à ce mariage, car en tout il n'y en avait pas plus d'une quarantaine. Et qu'est-ce que 40 mollusques sur toute une légion? Mais cette députation faisait foule dans le petit cottage de Twickenham. Ce fut un mollusque, assisté d'un autre mollusque, qui unit l'heureux couple, et ce fut Lord Tenace Mollusque qui eut l'honneur d'offrir le bras à Madame Meagles pour la conduire vers la salle du festin. Le repas ne fut ni aussi animé, ni aussi agréable qu'il aurait pu l'être. Monsieur Meagles, écrasé par ses hôtes illustres, dont la présence néanmoins le flattait énormément, n'était pas dans son assiette. Madame Gowan, au contraire, était dans la sienne, ce qui ne contribuait pas à améliorer la position de Monsieur Meagles. Il y avait dans l'air, comme une fiction acceptée, que ce n'était pas du tout Monsieur Meagles qui avait mis des bâtons dans les roues, que c'était au contraire la noble famille mollusque qui s'était seule opposée au mariage, qu'elle seule faisait en cela une concession, mais qu'il existait maintenant une unanimité magnanime. Et cette fiction semblait planer sur toute l'affaire, bien que personne n'exprimât ouvertement une pareille opinion. Et puis les mollusques sentaient que, pour leur part, ils n'auraient plus rien de commun avec les Meagles dès que ce repas qu'ils daignaient honorer de leur patronage serait terminé. Les Meagles, de leur part, savaient aussi à quoi s'en tenir à ce sujet. Et puis Gowan, usant de ses droits d'homme désappointé, qui avait une vieille rancune contre la famille mollusque et qui, peut-être, avait permis à sa mère de les inviter avec la bienveillante intention de leur causer du dépit et de la honte, étala devant eux sa palette et sa pauvreté, leur disant qu'il espérait un jour assurer un morceau de pain et de fromage à sa femme, et qu'il priait ceux d'entre eux qui, plus heureux que lui, parviendraient à se bien caser, et se trouveraient à même d'acheter un tableau, de ne pas oublier le pauvre artiste. Et puis Lord Decimus, qui, sur son piédestal parlementaire, était une vraie merveille oratoire, se trouva transformé chez M. Meagles en un bavard insipide, adressant un toast au marié dans une série de platitudes qui aurait fait dresser les cheveux sur la tête de son disciple le plus fanatique, s'engageant à l'étourdi, comme un éléphant imbécile, dans des labyrinthes de phrases qu'il avait prises pour une grande route et qui n'aboutissaient qu'à un cul-de-sac. Et puis M. Tenace Mollusque ne put s'empêcher de faire la remarque qu'il voyait à la même table que lui une personne qui l'aurait empêché, plus que toute chose au monde, de poser avec calme devant Sir Thomas Lawrence lorsqu'il avait fait faire son portrait par cet artiste. Tandis que Mollusque le jeune annonça d'un ton indigné à deux stupides jeunes gentlemen de ses parents qu'il y avait là un individu, dites donc, qui était venu à notre bureau sans lettre d'audience, disant qu'il voulait savoir quelque chose, vous savez. Et dites donc, si cet individu allait éclater de nouveau, au beau milieu du déjeuner, comme l'idée pouvait bien lui en venir, vous savez, ces démagogues sont si mal élevés, ils sont capables de tout, vous savez, et s'écrier qu'il voulait savoir quelque chose à l'instant même, dites donc, ce serait quelque chose d'amusant, n'est-ce pas? La partie la moins ennuyeuse de l'affaire fut celle qui causa le plus de peine à Clenham. Lorsqu'enfin M. et Mme Meagles jetèrent au cou de chéri dans le petit salon où se trouvaient les deux portraits, et d'où les invités étaient exclus, avant de l'accompagner jusqu'à ce seuil qu'elle ne devait plus repasser pour être la chérie et la joie d'autrefois, rien de plus naturel et de plus simple que la mariée et ses parents. Gowan lui-même fut ému, et lorsque M. Meagles s'écria « Oh, Gowan, ayez bien soin d'elle, ayez bien soin d'elle !» il répondit avec chaleur « Ne vous affligez pas ainsi, monsieur, Par le ciel, vous pouvez y compter. » Après les derniers sanglots et les dernières paroles de tendresse, après avoir jeté à Clennam un regard qui témoignait de sa confiance dans la promesse faite le soir des roses, Chéri se laissa retomber dans la voiture. Le mari les salua une dernière fois de la main et les voilà en route pour Douvres. Mais ils ne partirent pas avant que la fidèle Madame Tickett, dans sa robe de soie et son tour de cheveux noirs comme jais, se fût élancée de quelque cachette mystérieuse pour lancer ses deux souliers après la voiture afin de porter bonheur à ceux qu'elle emportait. Cette apparition inattendue causa une grande surprise à la société distinguée rassemblée aux fenêtres. La dite société, se trouvant maintenant libre de se disperser, et les principaux mollusques étant un peu pressés, car il y avait quelques mâles en partance qui risquaient, en leur absence, d'arriver tout droit au but de leur voyage, et ils se dépêchaient d'aller s'occuper de leur faire parcourir les mers dans tous les sens, comme autant de vaisseaux fantômes, ils avaient d'ailleurs à se donner beaucoup de mal pour empêcher de se faire un certain nombre d'affaires assez importantes qui semblaient en danger de marcher comme sur des roulettes. Ils s'en allèrent donc chacun de leur côté, donnant à entendre, en toute affabilité à Monsieur et Madame Meagles, que ce qu'ils venaient de faire à Twickenham, ils l'avaient fait pour obliger leurs hôtes, en un mot qu'ils avaient fait un sacrifice en faveur de Monsieur et Madame Meagles. C'est là une assurance générale que les mollusques ne manquent jamais de faire à John Bull dans leur condescendance officielle pour cette créature infortunée. Il y avait alors un vide déplorable dans la maison et dans les cœurs du père, de la mère et de Clennam. M. Meagles n'invoqua qu'un seul souvenir consolateur, et ce souvenir lui fit vraiment du bien. « Eh bien, Arthur, j'ai du plaisir à y songer, après tout, » dit-il. « Au passé ?» demanda Clennam. « Sans doute, mais ce n'est pas de cela que je voulais parler. C'était de la compagnie qui nous quitte. » Cette société l'avait attristé et rendu malheureux pendant toute la matinée, mais maintenant il était vraiment enchanté. « C'est très flatteur, » répéta-t-il à plusieurs reprises dans le courant de la soirée, « une société si distinguée. »